Pubé, c'est un peu mon.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans La Locale, le coup de projecteur sur celles et ceux qui font le territoire. Concocté par Sylvie et Karina, bonjour Karina.
Bonjour Sylvie.
Avec le coup de main cette semaine d'Achille, notre stagiaire de 3e, bonjour Achille.
Bonjour.
Et nous saluons aussi Carole qui est avec nous en studio, que Karina va vous présenter dans le sommaire de cette Locale du jeudi 4 mars, bonjour Carole quand même.
Bonjour.
Alors je ne suis pas seule à faire le sommaire, aujourd'hui je le fais avec Achille. Donc on va commencer par Franck Vidal qui est au téléphone, directeur de la Cité du Chocolat. On parlera chocolat et nous dira tout sur les visites virtuelles proposées par la cité et les nouveautés de Pâques qui arrivent bientôt.
Carole Toledo, directrice du studio Timto, est là pour nous parler de l'ECAS qui a mis en ligne son nouveau test pour la prochaine promo.
Et enfin, nous appellerons Carole et Eugénie, les marraines du Mars des femmes sur Radio BLV, qui composent le studio de création graphique My Name is Wendy, autrice des magnifiques visuels que vous avez pu découvrir sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet.
Et donc, on va parler chocolat. Effectivement, on parle chocolat régulièrement depuis 2016, quasiment. On a un partenariat, que ce soit pour Noël ou pour Pâques, avec Valrhona. Et Franck, donc j'accueille tout de suite Franck Vidal, directeur de la Cité du Chocolat Valrhona. Bonjour Franck.
Bonjour.
Alors Franck, on a eu l'occasion déjà de t'accueillir sur Radio BLV, effectivement. Et puis chaque année, on a ces rendez-vous. Normalement, on a ces rendez-vous dans l'année avec les chocolats Valrhona. Le pandémie oblige. L'année dernière, ça a été un peu une année off. Où est-ce que, comment vous...
Année noire, même.
Oui, on pourrait dire une année noire. Ouais,
c'est, chocolat alors, noir.
C'est ce que, voilà, je ne voulais pas faire la... Je n'ai pas voulu faire le jeu de mots.
Là, c'est lancé.
Alors, la Cité du Chocolat, comment vous avez vécu cette année, justement? On peut parler d'année maintenant, puisque ça fait un an que tout ça a commencé. Comment ça s'est passé cette année?
Ben, pas très bien.
Oui.
Pas très bien, parce que quand on a appris il y a un an, le 16, qu'il fallait fermer la Cité du Chocolat le lendemain, ça a été un peu un coup de massue. On a tout fermé, cité et boutique. Même si on avait le droit d'ouvrir la boutique, c'était pas une période très favorable l'année dernière. On a rouvert la boutique qu'au mois d'avril. Et depuis le mois d'avril, la boutique reste ouverte. On s'est adapté à toutes les contraintes sanitaires, les jauges limitées, les circuits. Le circuit à sens unique, nettoyage des caisses permanentes, nettoyage on a maintenu ça du mois d'avril jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est nos clients sont en sécurité dans la boutique. Par contre, la cité, le parcours de visite, on l'a rouvert au mois de juin et on l'a refermé le 30 octobre, comme tous les autres musées. Et du coup, on a fermé le restaurant, on a fermé l'école de pâtisserie et on a fermé le parcours de visite. Mmh. Voilà.
Alors, vous avez... d'abord, on espère très vite que ça va pouvoir ouvrir. On ne sait pas, on ne sait plus trop, là. On ne sait plus ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Donc,
c'est ça. Personne ne sait.
Voilà, on va dire que chacun essaye de s'adapter, chacune essaye de s'adapter au mieux. Du coup, vous avez essayé de comme tout le monde, d'inventer, de se réinventer, etc. et en faisant des ateliers des visites virtuelles et des ateliers découvertes Facebook par exemple.
Oui, c'est ça. Effectivement, il a fallu s'adapter, innover. On a commencé la vente à emporter de repas chocolat au comptoir. Ça, c'était l'été dernier. On a fait des visites à sens unique, des dégustations. On a été obligé de retirer les dégustations. Donc, c'est des animateurs qui offraient la dégustation avec des gants individuellement. Mmh. On a pas arrêté. Puis on s'était dit, bon, en septembre, ça allait continuer, en octobre aussi, et puis patatras, c'est reparti, refermeture. Et là, on a commencé à faire des ateliers de pâtisserie en mode virtuel. Mmh. Et là, ça plaît bien, en Facebook Live, on en a fait un encore, c'était hier, où on avait un atelier en direct et les enfants faisaient des pancakes au chocolat. Ça plaît bien. Et puis, on a fait des ateliers histoire du cacao en Facebook Live aussi. Et puis, on s'est dit, mais si on allait plus loin et qu'on faisait vraiment une visite de la Cité du Chocolat en virtuel, mais ce qui fait le charme de la visite de la Cité du Chocolat en vrai, c'est la dégustation.
Et oui.
Donc on envoie des kits de dégustation aux gens qui veulent faire des visites virtuelles. C'est ça la grosse innovation, on va dire.
Alors, on s'inscrit et vous envoyez vous envoyez le kit et ensuite on suit la visite et on déguste au fur et à mesure.
C'est ça. Ouais. Donc en fait, il y a 10 dégustations. Donc le kit est valable pour 2 personnes. Donc il y a 20 dégustations dans la boîte qu'on envoie pour le prix d'une entrée à la cité, de 2 entrées à la Cité du Chocolat. Mmh. On reçoit le kit comme si on avait la dégustation. En vrai, donc on reçoit le kit et on suit la visite virtuelle avec l'animateur et on peut déguster au fur et à mesure en même temps que l'animateur et on peut réagir aussi puisque c'est du Facebook Live, donc on peut réagir en mettant des commentaires et on a un des animateurs qui fait le médiateur et qui transmet les questions, les réponses sont données par l'animateur. Donc on essaye que ça soit le plus interactif possible et surtout le plus convivial possible. Donc, on a une dame, par exemple, qui voulait offrir ça pour son mari, pour son anniversaire. Donc, on savait que c'était son anniversaire. Donc, on a fêté l'anniversaire pendant la visite virtuelle. C'est des trucs un peu sympas et conviviales qui plaisent bien, quoi.
Oui, puis retrouver un peu ce lien qui nous manque tant aussi.
C'est ça. Les animateurs, au début, étaient un peu inquiets de ces visites virtuelles parce qu'ils n'avaient pas le public en face.
Et oui.
Mais avec nos animateurs qui font aussi médiateurs, on essaye d'entretenir cette convivialité aussi bien sur les ateliers de pâtisserie que sur les visites virtuelles.
Alors c'est vrai qu'en plus les animateurs et animatrices sont très très dynamiques et très plein d'allants et ça fait rien que ça déjà ça fait du bien. Comment on fait pour s'inscrire ?
On va sur le site de la Cité du Chocolat. En haut, il y a le bouton pour la boutique en ligne et le bouton pour la billetterie en ligne. On va sur la billetterie en ligne, on prend son billet pour la Cité du Chocolat et 3 jours après, on reçoit le kit et on peut faire la visite. Alors, les visites virtuelles, on les fait pour les vacances de février et puis en fait on va les prolonger tous les week-ends du mois de mars et puis pour les vacances de Pâques, mm-hmm. les vacances de printemps, j'étais justement en réunion juste avant avec l'équipe pour voir comment on faisait ça pour Pâques, mais on va continuer. On va continuer parce qu'on ne sait pas du tout quand ça rouvrira, même si ça rouvre, on aura quand même ces visites virtuelles.
D'accord. Et les ateliers gourmets avec l'école gourmet de la Cité du Chocolat, on va en avoir d'autres ou comment ça va se passer?
Oui, on va continuer. Théoriquement, là, on va continuer pendant le mois de mars pour les mercredis où on fera des ateliers enfants les mercredis 17 et ah non le mercredi 17 pardon et puis le vendredi 26 mars où on fera peut-être un quelque chose de plus adulte le soir. Mais voilà, ça, on continue. Et puis après, pendant le mois d'avril, pareil, on aura le mercredi plutôt des ateliers enfants et le samedi plutôt des ateliers plus adultes.
Alors tout ça, c'est à retrouver sur le site internet aussi ou sur la page Facebook ou sur... J'imagine
de
que tout ça, voilà, et tout ça est en ligne. Et alors, ouais. avant de terminer, le Pâques arrive bientôt. On sait que c'est entre Noël et Pâques, ce sont vraiment des grands moments pour le chocolat. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année?
Et quelles sont-elles?
Alors, oui, il y a des nouveautés, des petits pochons d'œufs que Valrhona a lancé l'année dernière, mais c'était une saison un peu creuse. Donc on relance ça cette année. Et puis la grosse nouveauté aussi au niveau de la Cité du Chocolat et de la boutique de la Cité du Chocolat, c'est que, et je le dis ça pour tous les auditeurs de Radio BLV, parce que on sait que c'est toujours compliqué à se déplacer, il y a le couvre-feu, il y a tout ça. Et du coup, on a mis en place le Click and Collect et le Halo and Collect à Noël. Hein, mm-hmm. Et du coup, on va poursuivre ça, c'est-à-dire que vous passez votre commande directement sur notre site de moulage, d'œufs, etc. Et vous pouvez venir les chercher directement à la boutique sans faire la queue, parce que le problème, c'est qu'il y a toujours la queue.
Enfin,
il va y avoir la queue, j'espère.
On le souhaite aussi.
Non, parce que la jauge est limitée à 30 personnes. Donc, d'habitude, il n'y avait pas de jauge. On n'avait pas de queue, mais là, il y a toujours un peu de queue. Donc là, j'invite tous les auditeurs de Radio BLV à se connecter et à utiliser le Click and Collect parce que c'est bien pratique, ça permet de faire son choix et de retirer directement sans faire la queue à la boutique.
Oui, c'est plus confortable pour tout le monde.
Voilà.
Pour la boutique aussi.
Oui.
Merci. Et puis bon, on va retrouver. On va en parler. On en parlera. On parlera chocolat pendant cet avant-Pâques aussi. De toute façon, sur Radio BLV, puisque on remet la Cité de Chocolat nous remet des cadeaux à faire gagner à nos auditeurs et auditrices. Donc restez connectés.
Je souhaite bonne chance à tous les auditeurs pour gagner ce chocolat. Sinon, ils peuvent nous retrouver sur notre site internet.
Absolument. Alors, juste une dernière question, peut-être,
oui,
Carina.
Oui, Franck, pardon, juste une question pratique. Ça coûte combien l'entrée à la Cité du Chocolat et les ateliers?
Oui, alors l'entrée à la Cité du Chocolat, c'est 10,80 €. Donc vous pouvez, il faut en acheter deux pour avoir le kit, parce que pour les frais d'envoi, dans le coffret, c'est valable pour deux personnes.
Mmh. D'accord.
C'est plus convivial de faire une dégustation à deux que tout seul devant son écran, mais voilà. Et puis pour les ateliers de pâtisserie, jusqu'à présent, c'était gratuit. On est en train de voir si on peut pas faire quelque chose de payant, mais ça sera jamais très très élevé. Mmh. Voilà.
Super.
Très bien.
Merci.
Merci beaucoup d'avoir pris ce temps et doublement merci parce que voilà d'avoir rebondi alors que c'était on avait noté une autre date. Bon, merci beaucoup.
C'est pas grave. Merci beaucoup et puis bonne fin d'émission et bonne journée.
Merci
bonne
à vous
journée.
Aussi. Au revoir.
Merci, au revoir.
Carina et Achille, je crois que vous avez une petite info à nous partager.
Aujourd'hui a lieu le forum à distance des licences professionnelles et des masters pour découvrir les informations de l'UGA.
Pour découvrir les formations.
Les formations.
Oui, donc si vous ne savez pas trop comment vous orienter, ce que vous voulez faire, vous pouvez donc participer à ce forum en ligne. Rendez-vous toute la journée entre 10h et 18h sur le site forum-licence-pro-master.univ-grenoble-alpes.fr.
Crise oblige, c'est en ligne avec des sessions de conférences des réponses aux questions et des échanges en visioconférence.
Et donc, comment ça marche ? C'est très simple, vous allez sur le site, vous choisissez les matières qui vous intéressent et vous voyez les présentations de parcours qui correspondent avec l'horaire. Voilà, parce que la programmation est très, très dense vu le nombre de parcours. Vous en avez pour tout le monde, art, lettres, civilisation, journalisme, enseignement, entrepreneuriat, protection de l'environnement, design, droit, architecture, voilà. Bon, genre, il y a une liste au moins 20 ou 30 parcours différents, philosophie, psychologie, bio, nanosciences, il y en a pour tous les goûts et c'est vraiment la journée pour vous informer si ça vous intéresse.
Et on reste dans la formation, justement, avec Carole Toledo de l'ECAS. Alors, redis-nous déjà l'ECAS, école,
cartoucherie, animation solidaire.
Voilà. L'ECAS qui a mis en ligne, vous avez mis en ligne le nouveau test donc pour cette quatrième session de formation. Bravo, ça veut dire que voilà, ce projet, cette idée un peu folle du départ, eh bien, elle perdure. Tu peux nous redonner, alors, Carole, on l'a annoncé tout à l'heure, toi tu es directrice du studio Timto et vice-présidente de l'ECAS.
Oui, tout à fait.
Et créatrice, co-créatrice de cette belle école. Est-ce que tu peux nous redire en quelques mots ce que c'est quand même que l'ECAS ?
Alors, l'ECAS, c'est une formation pour former des jeunes qui ne sont pas forcément diplômés, mais qui ont 18 ans et qui vivent en France, pour de l'animation 3D, animer des personnages 3D. Voilà, donner vie, tels des comédiens. Voilà. Aujourd'hui, en France, il existe beaucoup d'écoles qui sont sur 5 ans et qui apprennent les jeunes à travailler sur toutes les étapes. Il y a beaucoup d'étapes dans l'animation. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'était ne former que sur cette étape-là, parce qu'il allait manquer beaucoup d'animateurs en France en 2020-2021. Et on y est, en fait. Du coup, nous, en 2017, on a eu l'idée d'aller chercher des gens qui n'auraient pas eu la possibilité d'aller sur d'autres écoles, qui sont payantes et onéreuses, et nous, d'aller chercher le potentiel de ces jeunes-là pour pouvoir les identifier et pouvoir les former ensuite. C'est ce qu'on a mis en place. Là, aujourd'hui, on a formé 95 personnes. 5 n'ont pas validé sur les 95. 77 personnes sont au studio, travaillent aujourd'hui au studio. Les autres travaillent dans d'autres studios. On a le droit de partir de chez Timto aussi.
Oui, on ne signe pas son pacte avec son sang.
Complètement. Et oui, en plus, on reste intermittent. Et donc, du coup, il y a des gens de Paris et tout, qui retournent, voilà, et qui n'empêche, ont une première expérience, ce qui permet aussi d'aller dans d'autres studios avec moins de crainte, puisqu'ils ont cette première expérience. Et voilà, donc c'est plutôt une affaire qui marche très bien, et c'est pour ça qu'on continue cette année à mettre les tests en ligne pour pouvoir refaire une formation session 4.
Alors c'est vraiment, voilà, sur l'animation des personnages, donc c'est vraiment quelque chose de très particulier. Il faut avoir un sens de la dynamique, il faut avoir un sens du geste.
Complètement. En fait, c'est le métier de comédien, sauf que c'est pas nous qui tournons derrière la caméra. C'est faire passer des sentiments, des émotions au personnage d'une
avec
marionnette. Voilà. Avec comment on traduit ça. Et techniquement, parce que c'est des logiciels de 3D. Et intellectuellement, parce que ça s'apprend, en fait, de savoir regarder comment bouge un personnage. Qu'une personne, une petite fille ne bouge pas de la même personne, de la même manière qu'une vieille dame. Et voilà, donc toutes ces choses-là.
Alors, est-ce qu'il y a des prérequis pour passer pour rentrer à l'ECAS ?
Alors, il faut avoir 18 ans, voilà. Et avoir être habitant en français.
C'est tout.
Est-ce qu'il faut savoir dessiner ?
Pas forcément. En fait, le premier test sert à évaluer si on a le potentiel, c'est-à-dire le regard. Quand on a le regard, on a le potentiel pour savoir dessiner. Alors, nous, on ne dessine pas parce qu'on est en infographie 3D, mais on va aider et former ces gens à approfondir leur regard, forcément, puisqu'il faut qu'on apprenne comment on bouge, comment sont les choses. Voilà, c'est ce potentiel-là qu'on a besoin.
Et donc, tu disais, le premier test, parce que donc, les tests sont en ligne, il y a... comment ça se passe? Il y a un premier test, donc...
Oui, alors il y a un premier test qui est en ligne. On peut le faire de son téléphone, d'une tablette ou d'un ordi, qui est assez ludique, disons. Si on valide le fait qu'il passe, on a un deuxième test en studio, où ce soit à Paris ou à Valence, ou à Bourg-les-Valence exactement, au studio Timto. Et après, on aura un entretien à la fin de tous ces tests 2 qui est un peu plus poussé. Alors toujours avec un logiciel qui a été très adapté pour que tout le monde puisse faire, que ce soit intuitif. Donc là, on a fait passer pas mal de tests déjà, de tests 2. Et voilà, ça continue ça jusque fin avril. Voilà, et 17 avril, la fin du test en ligne, le premier test en ligne.
Et alors, après le premier test en ligne, vous sélectionnez comment en termes de pourcentage?
Il n'y a pas de pourcentage.
Vous interdisez rien.
On ne s'interdit rien. Ça ne sert à rien de s'interdire. Et on se dit, jusqu'au dernier moment, on peut avoir des bons potentiels. Mm-hmm. Donc, pourquoi on ne va pas fermer Le seul truc, c'est que le test 2 sera évidemment corrigé en dernier, mais globalement. Et là, on en prendra 50 et on verra 50 personnes. Et c'est là qu'on décidera des 32 personnes qui viendront faire la formation.
D'accord. 32 personnes donc à rentrer. Après, ça se passe comment le cursus?
Alors après, on commencera en juillet et on finira en février. On regarde aussi le début de formation par rapport à nos commencements de production future, puisque mission aussi de les embaucher derrière, donc il faut qu'on ait des choses à prévoir pour eux. Et donc voilà, du coup ce timing-là était assez bon.
Et alors comment ça se passe avec la pandémie, avec la situation, comment ça se passe? Les cours se font sur place?
Alors l'an dernier, vu qu'on s'est fait surprendre comme tout le monde, c'était un jour sur deux. Il y avait un groupe qui venait pour avoir la distanciation. Un groupe qui venait un jour, un groupe qui venait l'autre, tous les deux jours, en fait. On leur avait donné des machines pour travailler de chez eux. C'est pas l'idéal pour... Alors, heureusement, c'était pas le début, parce qu'au début, on a eu le temps de leur apprendre des choses et tout. C'est pas l'idéal. Donc là, on cherche des locaux, donc à bon entendeur, avoir la place de prendre tout le monde, avoir des logos plus grands pour pouvoir prendre tout le monde en présentiel, parce que le côté solidaire est très important à cette formation. Ils sont là pour s'aider. On n'a pas envie qu'il y en ait un qui ait le niveau très haut. Le but, c'est de pouvoir retranscrire et de redire à l'autre ce qui ne va pas pour s'entraider et arriver à avoir un niveau correct.
Oui, ça c'est vraiment important de le souligner, qu'il y a cette... Enfin, le mot solidaire, c'est pas simplement parce que c'est une formation gratuite, c'est aussi entre eux, apprendre la solidarité entre les jeunes qui vont...
Oui, parce qu'on s'est rendu compte que c'était très important, quand on est en apprentissage, de pouvoir retranscrire ce qu'on apprenait pour pouvoir bien l'intégrer. Et du coup, quand quelqu'un est un peu à la ramasse sur un truc, de réexpliquer... entre eux et tout, ça permet aussi d'avancer dans l'apprentissage.
Et par rapport à la pandémie aussi, au niveau du travail, comment ça se passe pour eux quand ils sortent de l'école? Est-ce qu'il y a des projets qui sont décalés en ce moment ou...
Alors nous, non. Au contraire, on a beaucoup plus de projets, puisque en fait, il y a beaucoup de studios qui n'ont pas pu livrer. Donc, beaucoup de plateformes ou France Télévisions et autres clients qui nous demandent des fois de donner un coup de main, ce qu'on fait, ce qui est très bien. Après, nous, au studio, on pourrait rentrer 210 personnes. Aujourd'hui, il n'y en a que 67. On ne met qu'une personne par table. On a des tulipes pour 2-3 personnes. Et là, il n'y a qu'une personne pour avoir les distanciations. C'est assez difficile pour les juniors, parce que donc on fait venir en priorité les juniors au studio pour les aider au maximum, pour qu'ils arrivent à pas paniquer, parce que commencer un boulot sans connaître les superviseurs,
c'est super compliqué.
Et puis on n'a pas choisi ce métier pour ne pas communiquer, donc on a mis beaucoup de choses en place, donc des caméras, des webcams, on a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse communiquer, mais c'est pas la même chose que d'être en équipe et de parler de son métier. Voilà, on fait pour le mieux, on espère vite que tout le monde va revenir au studio.
Là, les productions chez Timto, c'est quoi en ce moment?
C'est 8 productions en parallèle, donc c'est beaucoup de travail. et voilà, donc du coup, mais c'est bien, puisque en fait, on se rend compte aussi que la formation de l'ECAS, c'est aussi, quand on les met sur les projets, ils rentrent beaucoup plus vite dans les projets et dans la production que quelqu'un qu'on prenait avant d'une autre école, parce que la formation fait plus de 1000 heures, c'est la seule où il y a autant d'heures en fait pour cette étape-là. Donc forcément, ils sont presque déjà, ils s'adaptent très très vite, ça, voilà. Sûr. Et ils connaissent très bien leur superviseur parce que c'est eux qui donnent les cours. Donc voilà, c'est plutôt, ça marche plutôt bien.
Carina ?
Oui, je me demandais comment ça se fait qu'il manque à ce point des animateurs 3D ?
Eh bien, parce que en fait, il y a beaucoup d'écoles. Comme je vous disais tout à l'heure, le problème, c'est que dans ces écoles-là, on apprend, ben, comme aux Beaux-Arts, on va apprendre la peinture, du modèle vivant, plein de choses différentes. Et donc après, les étudiants vont choisir dans quoi ils veulent travailler, s'ils veulent être plutôt côté de la réal, plutôt de l'écriture, plutôt du décor. Il y a tellement d'étapes. Et sauf qu'il y a très peu qui sortent en anime. Ben, parce qu'il y a d'autres gens qui cherchent et qui préfèrent être un modeleur. Et en animation, il n'y en a pas tant que ça. Donc du coup, on savait depuis 2017, quand on avait fait une réunion avec le CNC, qu'on allait avoir un manque. Et c'est pour ça qu'on a en fait créé ça et spécialisé. Mais les Gobelins aussi ont fait une session animateur plus courte que leur session qu'ils ont l'habitude. Enfin, il n'y a pas que nous qu'avons mis ça en place pour aider à avoir plus de gens sur le marché.
Ouais, je trouve ça surprenant que ça attire pas tant de gens que ça.
C'est un métier qui est pas si connu que ça. Parce qu'on regarde tous des dessins animés, c'est vrai qu'on se rend pas compte que c'est un vrai métier derrière.
Effectivement, c'est pas forcément très très connu. Et puis comme tu disais, il y a des écoles, pour certaines, les écoles sont chères, sont longues aussi, et on peut avoir des jeunes qui sont intéressés par cette spécité, et qui ont pas qui ont pas envie de rester dans un cursus scolaire plus long pour des raisons.
Il y a aussi des gens qui font donc ces études là et qui partent au Canada parce qu'il y a eu beaucoup. Alors avec la pandémie un peu moins, il y a eu beaucoup d'attirance pour
l'excellence de la formation française. Est-ce que tu peux nous donner redonner l'adresse pour aller justement
passer le test donc www.ecas.fr.
Il y a des dates,
c'est simple.
Donc c'est déjà en ligne et ça finira le 17 avril.
Ce qu'on disait tout à l'heure. Super. Et merci beaucoup, merci. Carole. Bon, tu restes avec nous et puis tu n'hésites pas à réagir si tu as envie de réagir sur quelque chose.
Achille, c'est la suite des informations, on t'écoute.
Une rencontre inattendue à deux pas des immeubles et de l'avenue Maurice Faure. Laurent Duhamel a croisé pendant son jogging lundi matin un chevreuil au milieu du parc des Trinitaires. L'animal se rapprochant du parking et de la rue très passante, le Valentinois a appelé les pompiers afin d'éviter un choc dévastateur. En espérant que le chevreuil continue à se plaire, à l'abri des grands arbres des Trinitaires.
Oui, merci. C'est une information donc publiée dans le Dauphiné aujourd'hui de la vie animale en ville. Et sinon, si c'est J-1 avant le grand week-end des Restos du Cœur qui commence en fait demain. Et dès demain, des milliers de bénévoles seront dans des centaines de magasins en France pour la collecte nationale des Restos du Cœur.
Si vous souhaitez donner des produits alimentaires ou d'hygiène ce week-end pendant que vous faites vos courses en magasin, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des bénévoles également ou sur collecte.restoducœur.org pour savoir quoi donner.
Oui, et c'est particulièrement important en ce moment parmi les 875 000 personnes accompagnées et aidées par les bénévoles durant la campagne précédente. Près de 50% des personnes accueillies au resto vivaient en dessous de la moitié du seuil de pauvreté. 53% étaient des femmes, une personne sur deux était âgée de moins de 25 ans et 18% vivaient sans aucune ressource.
En Drôme, il y a une augmentation de 7% du nombre de repas distribués pour la campagne d'hiver qui s'achève.
Merci Karina, merci Achille de ces informations. Et on va parler maintenant, on va faire un peu d'auto-promo, mais pas que. On va parler du Mars des Femmes sur Radio BLV, puisque lundi, on a lancé cette opération. Pendant tout le mois de mars, on fait un focus sur les femmes, les meufs, les filles, les nanas. Bref, nous. Alors, excuse-moi Achille, oh, voilà.
Aucun problème.
En tous les cas, on est trois dans ce studio. Pourquoi ce focus? Parce que en 2016, on a mis une démarche en place au sein de la radio pour pouvoir accueillir la parole des femmes et la faire entendre, surtout la partager au maximum. Et qu'en 2021, on est très fiers de dire que maintenant on est en équilibre homme-femme sur la radio et sur l'association pour partager tout ce qui fait notre humanité à nous toutes et tous. Alors, une chose particulière, c'est le focus qu'on a voulu faire sur une bonne communication. Ça passe aussi par un visuel, on est d'accord. Et puis depuis longtemps on accompagne Carole et Eugénie qui sont les autrices, elles vont peut-être pas aimer ce mot là mais ça on va en parler tout de suite avec elles, de My Name is Wendy, qui est un studio de création graphique basé entre autres sur Valence et qui travaille à l'international. Merci Carole et Eugénie d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors Carole et Eugénie, non seulement je vous ai appelé, vous avez été, je tiens à le dire parce que vraiment vous avez joué le jeu à 300%, c'est-à-dire que je les ai appelés en fin de semaine dernière pour leur dire les filles c'est au dernier moment, c'est du grand n'importe quoi, mais est-ce que vous accepteriez de nous faire un visuel pour ce Mars des Femmes? Et elles ont relevé le défi et du coup elles sont les marraines de ce premier Mars des Femmes sur Radio BLV. Alors, qu'est-ce qui chez vous a fait écho tout de suite?
En tant que studio de design graphique, on travaille pour des centres d'art, des petites associations ou des grandes marques. Et c'est important pour nous de soutenir, on va dire, des causes ou des événements. Parce que le design graphique a un rôle aussi social. Il circule dans l'espace public. Et voilà, nous, ça nous. C'est régulier en fait qu'on nous demande ce genre de choses et on y répond parce que c'est important en fait.
Alors j'imagine qu'il y a une particularité du fait que ce soit le Mars des Femmes. Vous êtes deux femmes qui portaient donc ce studio dans un monde qui est quand même assez masculin. Le monde du design graphique est assez masculin en général.
Oui, tout à fait. Ouais. Après, au niveau des décideurs, alors c'est compliqué parce que on peut avoir, souvent dans les centres d'art, c'est quand même des femmes qui sont à la direction de communication ou qui dirigent des centres. Mais on sent aussi de la part de certaines femmes un manque de confiance vis-à-vis des femmes designeuses. Donc il y a vraiment encore beaucoup de travail là-dessus. En plus, là, on est en train de partir sur d'acquérir d'autres outils, notamment la 3D. On va pas ranger nos affaires parce que le monde de la 3D est alors, pour le coup, quasiment à 100%...
Très masculin. Alors, il y a Carole du studio Timto qui fait des grands signes en disant oui, qui a l'air d'acquiescer complètement.
C'est clair.
Alors effectivement, tu parlais des décideuses, c'est intéressant quand même cette remarque de dire attention, nous femmes, on parle beaucoup de sororité, il faut qu'on soit aussi qu'on soit aussi vigilante de ne pas nous massacrer nous-mêmes.
Oui, c'est vrai qu'on l'a vécu plusieurs fois et on a eu des décideurs hommes, ça s'est passé mais parfaitement. Super, mais parce qu'après, on a affaire quand même à des gens qui sont ouverts, voilà, au-delà de
mais sûrement parce que les femmes ont plus de pression aussi dans le monde du travail aussi, et je pense qu'elles ont beaucoup plus de comptes à rendre, et c'est un stress qui est véhiculé beaucoup plus, plus souvent que de la part, effectivement, des hommes, parce que la société est ouverte aux hommes directement, et que les femmes doivent faire leur place, toujours.
Donc, du coup, à ce niveau-là, c'est vrai qu'on a tendance à plus pardonner à ces femmes-là d'être moins ouvertes, mais on comprend un peu plus les rouages qui sont derrière. Alors que, bon, un homme qui est misogyne et qui commence à nous dire « Oui, mais bon, il est où le directeur artistique ?» Bon, voilà.
Oui, vous avez entendu ça, quand même.
Oui, plusieurs fois, oui.
En fait, on est que les secrétaires, nous. Hein.
Voilà. On nous l'a fait quand même.
Non, on se fait un malin plaisir de bien remettre en place la personne.
Ouais. Voilà. Très bien. Dans vos collègues graphistes, c'est quand tu disais que c'est un monde très masculin, c'est comme là on parlait des décideurs, mais dans les graphistes eux-mêmes, ça reste encore en grande majorité masculin.
Oui, parce que je pense qu'il y a un problème aussi dans les écoles d'art, tout simplement. Hein. On l'a eu plusieurs fois. Beaucoup de jeunes filles sortant d'écoles d'art s'inquiètent pour leur carrière. Mmh. C'est un véritable problème, à savoir qu'il y a une majorité de jeunes filles.
Oui, en études de design graphique. Oui.
Et elles sont...
Elles finissent en général l'infographie, ce qui n'est pas le nom, c'est pas le problème, mais c'était pas leur but. Mmh. Elles auraient préféré devenir directrice artistique ou graphiste. L'infographiste a plus tendance à mettre en page les éléments que lui apporte un graphiste ou un créateur. Mmh. Et puis bien souvent, elles ne se mettent pas... elles ne forment pas de collectif pour pouvoir monter un petit studio de design. Pas les épaules pour nous, ça nous attriste parce que
c'est toujours moins évident de toute façon. Voilà, même dans les écoles, voilà, c'est un peu dramatique comme constat. Mais
donc, vous voyez effectivement que dans les écoles il y a une majorité de filles, mais que par contre, derrière, quand on arrive dans le monde du travail, soit elles sont dépréciées. Soit elles disparaissent, quoi, carrément.
Tout à fait.
Ouais, c'est ça.
Tout à fait.
On avait fait on a été invité pour justement le mars des droits de la femme, je sais pas, il y a 2 ans ou 3 ans à Lyon. Mm-hmm. Et en fait, on nous avait demandé de faire une conférence justement sur la place des femmes. Donc on avait fait tout un dossier sur plein de femmes designeuses très célèbres. Normalement, elles sont censées être très célèbres, mais bon, voilà, c'est surtout les designeuses qui les connaissent, pas toujours les designers. Et en fait, on est tombé sur une étude qui, ben, voilà, je ne sais plus, c'est 80% des filles qui sont sur les bancs d'école et à la sortie, elles finissent maquettistes, ou même elles finissent maquettistes dans une société d'impression, en fait. Mmh. Et en fait, elles sont pas du tout mises à l'avant. C'est pour ça que régulièrement, on a des jeunes filles qui, quand on fait des conférences, elles sont vraiment avides de poser des questions parce que, effectivement, comme vous disiez, Carole, elles sont très inquiètes et on le comprend.
Bah, en plus, c'est à double tranchant parce que la société, on a l'impression un peu que ça, bah, de toute façon, que ça bloque les portes aussi, de toute façon, à ces jeunes filles. Et ça n'arrange pas non plus, du coup, le fait qu'elle doute énormément.
Bien sûr, bien sûr.
Et c'est encore beaucoup plus compliqué par rapport à ça.
Oui, c'est vrai parce qu'il y a aussi c'est multifactoriel, mais il y a aussi le facteur psychologique. C'est-à-dire, nous, on l'a vécu au tout début, on ne se mettait pas en avant. Mmh. On avait tendance à déprécier notre travail. Et du coup, on n'arrive pas aussi, c'est très difficile de faire un réseau, parce que c'est souvent des hommes qui sont en réseau. Mmh. C'est difficile d'arriver à étendre tout ça, de se valoriser sur les réseaux sociaux, parce que c'est très important quand on est créateur. Maintenant, peu importe ce qu'on peut dire des réseaux sociaux, ils sont là et il y a aussi des bons côtés. Et en fait, elle lutte aussi contre ça, c'est-à-dire cette mésestime qui est en elle, et ça met, soit elles n'arrivent pas à en sortir, soit ça met des années, nous ça met des années. Et c'est très important de valoriser la création des femmes, les jeunes femmes dans les écoles, on n'arrête pas de les pousser, quoi. Il faut quitte à ce qu'elles fassent des collectifs ensemble pour devenir plus fort.
Bien sûr. Il faut vraiment absolument travailler sur le transformer les cercles vicieux en cercles vertueux. Et cette remarque sur la mésestime, c'est vraiment, enfin, on est toujours sur l'histoire de la légitimité aussi, de ce problème de légitimité, et on se rend compte que c'est vraiment dans tous les domaines qu'on retrouve ce frein, et sur lequel il faut vraiment qu'on travaille. Quand je disais le Mars des femmes sur Radio BLV, le slogan, ça pourrait être « Prenez votre place ». C'est-à-dire qu'on n'a rien à quémander, on n'a rien à demander à qui que ce soit. Il faut juste prendre notre place. On est là et on est professionnel autant qu'un homme. Et pas plus, pas moins. C'est après, ça aussi. Alors, parfois, des fois, plus.
Après, moi, je m'étais... Carole, oui. Une fois, j'avais présenté les CAS à plein de jeunes. On avait ouvert pour présenter notre formation. Et j'avais posé la question aux filles en disant, mais pourquoi il y a moins de... Pour vous, les filles, pourquoi il y a moins de filles dans ces métiers-là, alors que ça touche la sensibilité. Oui. Et moi, j'ai pas mal de filles au studio qui sont très douées. Et elles me disaient, bah, parce qu'en techno, ce sont que des hommes, et on pense que les choses liées à l'informatique sont à des hommes. Ce qui est complètement faux.
Absolument. Complètement l'aspect technique, faux. C'est souvent effectivement l'aspect technique et technologique qui
rebute. Il y a de plus en plus, et je vois moi dans les écoles, ils arrivent à être 50% de filles et 50%... Mais entre l'école et les studios d'anime, ça rebaisse à 30%.
Ouais, c'est ce que vous disiez, dites en graphisme. Et d'ailleurs, au sujet de la technique et de la technologie, c'est vrai que tu viens de dire, nous, on se forme à la 3D. Enfin, la formation, c'est vraiment la base, parce que ce qui peut paraître, puis voilà, ne vous hésitez pas à mettre les mains dans le cambouis, c'est le cas de le dire, dans les machines, parce que tout s'apprend. Et qu'on se rend compte qu'une fois qu'on a les outils, à la radio c'est pareil, souvent les filles sont inquiètes de la technique, et en fait il suffit de rentrer dedans et qu'on n'est pas plus bus que d'autres.
Oui, non, mais en plus, ce qui est assez drôle, ça, nous on le remarque en ayant tout simplement des stagiaires, les filles, vu qu'elles doivent travailler beaucoup plus en général, elles sont beaucoup plus investies, et elles travaillent trois fois plus. Elles sont très très réactives, je trouve. Et voilà, on l'a souvent remarqué. Les hommes sont les garçons aussi, même jeunes, sont dans un rapport aussi parfois aussi un peu de, comment dire, un peu de force par rapport à nous, parce que nous, voilà, on est installés, on a notre studio, donc en fait ils se mesurent un petit peu, du coup, vu qu'en plus on est deux femmes. Et en fait, finalement, dans le travail, ça avance pas tant que ça. C'est plus sur la valorisation d'eux-mêmes. Alors que leur présence. Voilà, alors que les filles, on a remarqué, quand elles viennent chez nous, elles cravachent, quoi. Mmh. Elles y vont, elles cherchent, même si elles ont des peurs, on voit que ça, c'est pas le même fonctionnement du tout. C'est assez drôle aussi par rapport au monde, vous disiez que l'ordinateur, c'est plutôt réservé aux hommes, c'est qu'il faut savoir, je ne pourrais pas retrouver des noms, mais il faut savoir que c'est une femme qui a inventé la programmation informatique, déjà. Voilà. Et que les premières icônes dessinées pour Apple, les premières icônes même pour Windows, c'est une femme designer aussi, américaine, mais bon, ça c'est drôle.
Et ça, on ne le sait pas.
Voilà, on ne le sait pas. Tout est caché.
Merci. Alors bon, je tiens à préciser que My Name is Wendy existe. Vous existez depuis combien de temps en studio?
2012.
Wow. Pour vous mettre d'accord là.
Ça fait un certain temps, on va dire, mais que vous êtes et que aujourd'hui vous travaillez pour des clients comme YouTube ou Nike par exemple. Donc comme quoi, de Valence, ça aussi c'est important de le dire. De Valence, comme comme Carole au travers de Timto, de Bourg-les-Valence ou de Valence, eh bien, on peut s'aimer un peu de partout dans le monde. Et ça, il faut qu'on en soit fiers aussi. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous tout de suite là à l'instant. Et puis vraiment, merci d'être nos marraines, d'être les marraines du Mars des Femmes sur Radio BLV et de ces magnifiques visuels que vous nous avez concoctés qui sont vraiment un plaisir à porter.
Merci.
À très bientôt.
Oui.
Merci beaucoup, Carole, d'avoir été avec nous.
Merci
Achille, merci Karina. Et puis, à mardi.
À mardi. Bonne journée.